Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Contestation en Algérie. La police a procédé aujourd'hui à des arrestations systématiques de passants à Alger aux abords de la Grande Poste, point de ralliement de la grande manifestation hebdomadaire du vendredi contre le régime en place. Un rassemblement prévu dans l'après-midi. Seules les personnes âgées et les femmes avec des enfants semblent passer pour le moment entre les mailles du filet. Depuis le 22 février, les Algériens sortent massivement dans les rues chaque vendredi, notamment à Alger, pour réclamer un changement du système politique en Algérie. Contestation au Soudan maintenant, toujours pas d'avancée vers la reprise des négociations entre les leaders de la contestation et les militaires soudanais qui refusent de céder le pouvoir aux civils. Le Conseil militaire au pouvoir a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne des formations Qatari Al Jazeera à Khartoum, alors que des milliers de personnes protestaient dans la capitale soudanaise contre l'absence de progrès vers la transition. Une décision des autorités qui comprend aussi le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al Jazeera, a précisé jeudi la chaîne qui diffuse régulièrement des images des manifestations contre l'armée qui secoue le Soudan. Al Jazeera a dénoncé ce qu'elle appelle une totale violation de la presse et assure continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises. Soudan du Sud, le gouvernement du président sud-soudanais Salva Kiir a dénoncé ce vendredi la prolongation d'un an de l'embargo sur les armes contre le pays, voté la veille par le Conseil de sécurité de l'ONU. Djouba a qualifié cette décision de mesure contre la paix. Tout ceci est fait dans le but d'affaiblir le gouvernement sud-soudanais pour qu'il soit renversé par l'opposition, a déclaré le ministre sud-soudanais d'information, Michael Makwei. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté par 10 voix pour et 5 abstentions une résolution prolongeant jusqu'au 31 mai 2020 l'embargo sur les armes ainsi que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager de 8 responsables sud-soudanais accusés d'avoir joué un rôle dans la guerre civile qui ravage le plus jeune pays du monde depuis 2013. République démocratique du Congo, la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique et leader de l'UDPS, mort à Bruxelles le 1er février 2017, est finalement de retour au pays natal après son rapatriement à Kinshasa hier en provenance de la Belgique. Le compte-rendu de Walter Nkoy de Top Congo FM, notre station partenaire, à Kinshasa.
C'est à 18h45 temps universel, 19h15 heure de Kinshasa, que l'aéronef qui transportait le corps de feu Étienne Tshisekedi ainsi qu'une délégation d'une vingtaine de personnes s'est posée à l'aéroport international de Ndjili. Plusieurs officiels, dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier ministre entrant et celui sortant, attendaient la dépouille au pied de l'avion. Les fanfares de la police nationale congolaise ont résonné ce jeudi soir pour accueillir le corps de l'illustre disparu. Après un bref recueillement du président de la République accompagné de son épouse, le cercueil a été posé sur un corbillard, destination l'hôpital du cinquantenaire à près de 25 km de l'aéroport international de Ndjili. Il y sera gardé jusqu'au vendredi avant d'être exposé au stade des martyrs. Des milliers de Kinois ont passé des longues heures le long du boulevard Lumumba pour voir passer le cortège funèbre d'Étienne Tshisekedi, ancien premier ministre de la RDC. À l'UDPS, on dit célébrer cet événement.
Donc c'est vraiment un jour heureux, un jour mémorable. À la limite, on ne devrait même pas pleurer, on devrait célébrer ce jour parce que c'est le jour du retour de celui qui nous a permis de devenir tant soit peu démocrate.
Kinshasa, Walter Nkoui de Top Congo pour VOA Afrique.
Le Burundi menace de couper les liens avec Michel Kafando, l'envoyé spécial de l'ONU pour le pays, en dénonçant ce qu'il appelle les ingérences étrangères dans les élections qui doivent avoir lieu dans le pays en 2020. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, selon des diplomates, annulé à la dernière minute une réunion sur le Burundi prévue mardi, après que le gouvernement burundais a clairement fait comprendre qu'il était prêt à rompre ses relations avec Michel Kafando, ancien président du Burkina Faso. Ce dernier a été nommé en 2017 pour mener les efforts de l'ONU au Burundi, où au moins 1200 personnes ont été tuées et plus de 400 000 déplacées dans les violences qui ont suivi la réélection du président Pierre Nkurunziza lors d'un scrutin contesté par l'opposition en 2015. Élection au Malawi, pays d'Afrique australe, enclavé entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie. L'opposant malawite Lazarus Chakwera, arrivé deuxième de la récente présidentielle, a annoncé lors d'une conférence de presse ce vendredi à Lilongwe, rejeter les résultats frauduleux du scrutin remporté par le chef de l'État sortant Peter Mutharika. Le leader d'opposition compte demander à la justice malawite d'annuler les résultats de la présidentielle du 21 mai. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, qui a recueilli 35,41% selon les résultats de la commission électorale. Moins de 160 000 voix séparent les deux hommes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, un cas confirmé de polio a été recensé dans la région de l'extrême nord, 4 ans après la disparition du virus dans ce pays d'Afrique centrale. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le ministère camerounais de la Santé parle d'un cas de poliovirus de type 2 détecté dans des prélèvements effectués à Mada dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Cette découverte, d'après le gouvernement, constitue une urgence de santé publique. Les autorités ont annoncé des mesures d'urgence, dont l'organisation d'une campagne de vaccination de riposte. L'objectif est de stopper dans les 90 jours la transmission du virus sur toute l'étendue du territoire national. Le Cameroun avait déjà été déclaré exempt de la poliomyélite en 2015. Cette maladie infectieuse est causée par un virus envahissant le système nerveux et peut engendrer des paralysies irréversibles en quelques heures. La polio peut être simplement prévenue par un vaccin.
Actualité américaine maintenant. Washington donne 10 jours au Mexique pour barrer la route aux migrants clandestins qui traversent son territoire pour se diriger vers la frontière avec les États-Unis. Et ce, si Mexico veut éviter l'imposition de tarifs douaniers américains sur tous ses produits. Le président américain Donald Trump a annoncé cette décision hier soir dans un tweet. Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a écrit, le 10 juin, les États-Unis imposeront des tarifs douaniers de 5% sur tous les biens mexicains, jusqu'à ce que tous les migrants illégaux passant par le Mexique et entrant dans notre pays soient stoppés. Tant que ce problème de l'immigration clandestine ne sera pas résolu, les tarifs vont progressivement augmenter tous les mois jusqu'à atteindre 25% d'ici au 1er octobre. Selon le président américain, cette collaboration passive du Mexique avec, je cite, cette incursion massive constitue une urgence et une menace extraordinaire à la sécurité nationale et à l'économie des États-Unis. Il a ajouté que Mexico a des lois énergiques sur l'immigration et peut facilement arrêter le flux d'étrangers illégaux, y compris les renvoyer chez eux. Le vice-ministre mexicain des Affaires étrangères, Jesús Seade, a dans sa réaction déclaré que de tels tarifs seraient désastreux et il a averti « Si cette menace était mise en œuvre, ce serait très grave et si cela devait arriver, nous devrions réagir énergiquement ».
Moyen-Orient maintenant, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé ce vendredi l'Arabie saoudite de semer la division dans la région, critiquant les tentatives du rival saoudien de mobiliser le monde arabe et musulman contre Téhéran. L'Arabie saoudite continue de semer la division, ce qui est le souhait du régime sioniste d'Israël, a affirmé le porte-parole des Affaires étrangères, Abbas Mousavi. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a avancé jeudi que l'Iran avait l'intention de faire monter le prix du pétrole à travers les récents actes de sabotage contre 4 navires à l'entrée du Golfe. Washington accuse Téhéran d'être à l'origine de ces incidents. Le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, avait affirmé la veille à Abu Dhabi que l'Iran était très vraisemblablement derrière les actes de sabotage du 12 mai qui ont fait monter la tension dans la région. Et pour terminer, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a essuyé un revers cinglant en échouant dans ses efforts pour former une coalition de gouvernement. Il a préféré provoquer de nouvelles élections quelques mois à peine après le précédent scrutin du jamais vu en Israël. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.